Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Jocelyne Moussa Oumpondé pour les journaux.
Neuf morts, six blessés graves, des maisons écroulées et plusieurs centaines d'autres en danger. C'est le bilan des dégâts causés par la pluie d'hier. C'est jeudi dans la ville de Bukavu. Dans l'ex-Équateur, près de 4000 personnes sont victimes des inondations. Le gouvernement provincial prévoit la délocalisation de ces personnes. James Vanuatu est notre invité. Il est directeur financier de ENKST, fournisseur du courant électrique à Butembo. Bonjour à tous. La ville de Bukavu est endeuillée par la pluie qui a provoqué des éboulements mortels dans la nuit d'hier, mercredi à ce jeudi. On enregistre 9 morts et 6 blessés graves sur deux avenues, Rosizi 3 et Mukukwe, au quartier Ndendere, dans la commune d'Ibanda. Une dizaine de maisons se sont écroulées et plusieurs centaines présentent des fissures inquiétantes. Le chef de quartier lance un appel à ceux qui vivent sur les sites impropres à la construction à dévider les lieux. Sont toutefois préciser à ces familles à quel endroit elles vont se diriger. Les détails avec Jean Kassami.
5 avenues du quartier Ndendere sont sérieusement endommagées par les pluies diluviennes tombées sur la ville la nuit du 11 au 12 décembre. 8 personnes sont mortes sur avenue Rosizi 3 et une autre à Mukukwe. À Giamba, 3 maisons se sont écroulées sans faire de victimes. Selon le chef de quartier, les occupants des maisons écroulées avaient déjà pris les larges avant la tombée de la pluie. Sur avenue Mukukwe, un ancien joueur de l'équipe Bukavu Dawa est mort enseveli par un mur tombé sur sa maison. Sur avenue Ancien Combattant, 8 maisons fortement fissurées sont en voie de s'écrouler. Au feu rouge, toujours au quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda, une maison a cédé et plusieurs autres menacent de s'effondrer. Tous les 9 corps ont été extraits des décombres et sont exposés sur les lieux du désastre en attendant l'autorisation d'inhumation. Valérie Muhaya, spécialiste en pédologie, conseille aux habitants de ne pas habiter sur des sites dangereux.
Au lieu d'amener ta famille et venir habiter dans un site à très haut problème comme ça, autant mieux rester même au village, à l'État aussi, de penser à la restructuration même partielle de la ville.
La société civile environnementale propose carrément l'extension de la ville de Bukavu. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
En Ituri, 5 détenus sont morts en l'espace d'un mois à la prison centrale de Bunia. Selon le responsable de cette maison carcérale, c'est suite au manque de nourriture. Il dit avoir alerté en vain les autorités compétentes pour résoudre ces problèmes. Il redoute que cette situation ne dégénère si aucune disposition n'est prise dans un bref délai. Les détails avec Jean-Claude Loki.
Selon le directeur de cette prison, le dernier fonds reçu du gouvernement central pour la prise en charge alimentaire des détenus remonte au 18 juillet 2019. Il affirme que c'est pratiquement depuis 5 mois que ces prisonniers vivent dans des conditions humanitaires difficiles. Major Camille Zondi redoute le pire.
Nous avons un taux élevé de malnutrition pour le moment. Quand quelqu'un mangeait par exemple 400 grammes et puis par après il mange 150 grammes. Quelqu'un qui est malade et qui ne mange pas bien, ça peut aussi entraîner la mort. Toutes les prisons reçoivent les subventions au niveau du gouvernement central. Si la province devait aussi intervenir en attendant, c'est que les centrales résolvent le problème.
Au courant de cette année, 15 détenus sont déjà décédés de suite de cette condition carcérale déplorable. Le responsable de la prison centrale de Bunia demande au gouvernement ainsi qu'aux personnes au cœur sensible de voler au secours de ces personnes en détresse. Un appel qui a vite trouvé écho auprès du regroupement politique républicain indépendant et allié, RIA, dont les membres ont apporté hier mercredi 2 tonnes et demie de maïs frais, 800 kg de choux paumés, des bidons d'huile végétale, des sacs de riz. Rappelons qu'à ce jour, cette prison héberge 1332 détenus au lieu de 220, soit 6 fois plus que sa capacité d'accueil normale. Bunia, Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Rendons-nous dans l'ex-Équateur où plus de 370 000 personnes sont victimes des inondations en cours avec la montée progressive des eaux du fleuve et des Lubangui. Le rapport a été publié hier mercredi par le gouverneur intérimaire, ce à l'issue de la réunion de concertation qu'il a présidée mardi soir avec le comité d'éveil provincial et les partenaires humanitaires. Le gouvernement provincial, a-t-il dit, prévoit ainsi la délocalisation de ces sinistrés vers deux sites à Mbandaka et à Bikoro Centre, mais aussi aussi un appui en vivres et en eau potable. Faute de moyens, cependant, l'autorité provinciale lance un appel de fonds équivalent à 10 millions de dollars américains. Jean Gili Mwamolanda s'exprime au micro de Paul Richard Malengela.
Au niveau local, nous nous organisons avec nos moyens de bord, avec aussi l'aide de quelques partenaires pour leur venir en aide en arrêt alimentaire. Et aussi, avec les infos que j'ai, on a disponibilisé quelques eaux potables pour venir en aide à cette population. Mais sinon, ça ne suffit pas. Nous lançons un cri d'alarme à notre gouvernement central pour qu'on nous vienne en aide le plus vite possible.
Quels sont les besoins réels et urgents de ces populations sinistrées?
À la date où je vous parle, l'eau continue à monter. On a essayé de calculer le taux d'accroissement. Ça atteint 2%. Il y a pratiquement 370 000 victimes. Et là, nous comptons la population qui vit dans la terre ferme. La population a besoin de denrées alimentaires. La population a besoin de couverts, de produits de traitement d'eau. Urgemment, ça c'est la première phase où nous nous trouvons. Puisqu'on doit aussi prendre ces gens encore submergés et les déplacer vers une terre ferme. Si quelqu'un, si le gouvernement central nous venait dans un premier temps, même avec 10 millions de dollars, ça peut nous aider à faire face à ça.
Ici à Kinshasa, les eaux du fleuve Congo ont débordé et causent des dégâts importants dans certains quartiers. À Kingaboa, dans la commune de Limété par exemple, beaucoup d'habitations se retrouvent sous les eaux. Plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile et d'autres se déplacent massivement vers des quartiers plus sécurisés. Ces habitants appellent les autorités à l'aide avant que le pire n'arrive. Reportage Grâce Hamzati.
Ces inondations sont perceptibles depuis la cité du fleuve où les eaux envahissent certaines maisons. Conséquence, les fosses septiques pleines refoulent les matières fécales dans les cuves. Cette situation incommodante oblige plusieurs familles à quitter les lieux. Un peu plus loin, toujours à Kingaboa, dans le quartier dénommé Sans Fil, en passant par Grand Monde, la situation s'aggrave. Ici, des biens sont emportés et d'autres détériorés par les eaux. Les jeunes du quartier mettent des planches servant des ponts de fortune pour faciliter tant soit peu la circulation. Ils utilisent des pirogues pour évacuer les et les enfants. Désemparés, ils ne savent à quel sens se vouer.
C'est triste, les eaux arrivent jusque dans nos maisons et nos biens sont abîmés. Que les autorités nous trouvent une solution, que nous ayons même des mousses pour dormir.
Dans ces désastres, nous retrouvons cette jeune élève âgée de 7 ans tenant ses objets classiques sur la tête en train de vouloir aller à l'école. Mais elle est bloquée car le niveau d'eau lui arrive presque au cou. Ce chemin sur lequel nous passons est totalement inondé. S'il y a du courant, nous avons le risque d'être électrocutés. Cependant, ses habitants disent déplorer le passage mardi dernier du Premier ministre à la cité du fleuve sans visiter leur quartier pour s'imprégner de la situation. Signalons que ce phénomène est aussi observé dans les quartiers Ngwele et de Bonhomme, toujours dans la commune de Limété.
Restons à Kinshasa où la survie de l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa, ne tient plus qu'un fil après sa réhabilitation, surtout dans sa partie comprise entre les avenues Itaga et Commerce, dans les enclavures du marché central de Kinshasa, dans la commune de Kinshasa. Difficile de croire être sur une route bétonnée et à quatre bandes, les vendeurs assis, les vendeurs ambulants, jetant des immondices partout d'un côté, et les taxis motos et les taxis bus de l'autre côté, ces rivalisent d'ardeur pour occuper en stationnant sur toute une bande. Conséquence, la route s'est rétrécie, les immondices s'accumulent sur la chaussée bétonnée et l'eau stagne. Cette mixture cause de la boue qui souvent dégrade la route, constat fait par notre reporter Jacques-Yves Molima.
Nous sommes dans le marché central, tout le long de l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa. Il y a peu, cette route était impraticable. Les vendeuses et vendeurs avaient du mal à écouler leurs produits. Aujourd'hui, tout a changé, dit cette vendeuse.
En ce moment, les véhicules et les gens passent sur Bokassa. Ça nous a facilité, les gens viennent acheter.
Mais seulement voilà, depuis, le constat est plutôt décevant.
Il y a des gens qui n'acceptent pas de vendre à l'intérieur. Ils veulent que vendre sur la chaussée.
Les mauvaises habitudes ne quittent pas les Congolais, regrette ce papa au volant de sa Jeep.
Pour eux, la route n'existe pas. Je trouve que les gens ont gardé leurs mauvaises habitudes de vendre pratiquement sur la chaussée. On passe difficilement. La route est pleine d'immondices et bientôt là, ça va encore boucher, on n'aura plus de route.
D'où cet appel d'une vendeuse, la cinquantaine révolue.
Il ne sera pas bon que cette route s'abîme de nouveau, que ceux qui vendent rendent propre là où ils vendent. Le rendre sale, l'eau va stagner et la route va s'abîmer encore et ce n'est pas bon.
Tout ceci se passe sous l'œil indifférent de Kinvopé.
En bref, rendre les secteurs de pêche, élevage et aquaculture capables de créer des emplois en RDC, c'est l'un des objectifs poursuivis par le premier forum sur la pêche et élevage qui s'est ouvert hier mercredi ici à Kinshasa. Selon Jonathan Bialosuka Ouata, ministre en charge de ces secteurs, il sera question de relever les faiblesses, les forces et les opportunités afin d'identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre. En culture, la 6e édition du Salon africain de la bande dessinée et de l'autre musique démarre ce jeudi et ira jusqu'à samedi 14 décembre au nouveau musée national de la RDC situé sur le boulevard Triomphal ici à Kinshasa. Au menu, expo-vente des bandes dessinées, séances de dédicaces, conférences, performances et concerts avec les artistes congolais et étrangers organisés par l'atelier de création, recherche et initiation à l'art ACRIA. Cette édition est placée sous le thème « L'art dans le patrimoine ». Patrimoine historique Congo et intervient 14 ans après la 5e édition. Le dessinateur Barli Baruti, président du comité organisateur, évoque quelques particularités de cette 6e édition au micro de Jean-Marc Matoki.
Nous allons parler de la bande dessinée, mais nous allons parler plus de comment vivre de la bande dessinée. Ça veut dire que tous ces côtés professionnels. Et puis nous allons nous diriger vers l'industrie culturelle. Qu'on arrive à faire ce que nous faisons, c'est bien, mais il faut que ça puisse nourrir son, comme on dit, et c'est possible. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de thèmes, de sujets, qui dépendent aussi de la manière dont on peut essayer de les faire passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, quand vous faites de la BD, vous avez la possibilité de toucher un spectre beaucoup plus grand, que ce soit des jeunes, que ce soit des très vieux. Puisque, comme vous le savez, nos sociétés, nous sommes dans ce qu'on peut appeler d'obédience orale. Et devant ce que nous avons aujourd'hui, ça veut dire l'écrit. Entre l'écrit et l'oral, la bande dessinée joue son rôle. Et je pense que la bande dessinée est vraiment importante, voire indispensable pour la communication.
Actualité internationale.
Le Niger a perdu 71 soldats dans une attaque terroriste contre le poste militaire d'Inat hier mardi dans la soirée. L'attaque a également fait 12 blessés et des disparus. C'est la plus meurtrière depuis le début de l'offensive djihadiste au Niger il y a près de 5 ans. En juillet, 18 soldats nigériens ont perdu la vie lors d'une attaque sur ce même poste militaire. 24 millions d'électeurs algériens sont appelés aux urnes ces jeudis pour trouver un successeur à l'ex-président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika. Ce scrutin est massivement rejeté par une bonne partie de la population.
L'invité.
À Boutembo, certains habitants de classe moyenne s'indignent du coût élevé de raccordement au courant électrique fourni par la société ENKSTS à partir de la centrale hydroélectrique de Ivoi. Pour manifester ses indignations, le mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha a organisé un sit-in devant le bureau de cette société la semaine dernière. La population déplore également le manque d'éclairage public à Boutembo pendant que cette société veut transporter le même courant jusqu'à Bénéville. James Van Nout, directeur financier de cette entreprise, répond à toutes ses préoccupations au micro de Florida Campo.
Monsieur James Van Nout, bonjour.
Bonjour.
Des indignations par rapport aux services rendus par votre entreprise. La dernière à date, c'est celle de la Lucha, d'ailleurs qui a manifesté jusqu'à votre bureau. Quand vous écoutez toutes ces lamentations, quel sentiment vous avez?
Alors, moi, comme je l'ai dit aux gens de la Lucha, ça me fait mal au cœur, parce que je pense que les gens, ces revendications sont complètement infondées. Nous travaillons bien, nous respectons des normes internationales, nos cabines sont de standards internationaux. Notre production est de standard international et nous ne nous pouvons pas nous permettre de fournir un service qui est de mauvaise qualité. Et je vous invite, vous, en tant que journaliste, à aller vérifier mes propos. Et vous verrez par vous-même que finalement, ce que je dis est la vérité et que ces accusations sont complètement infondées.
Et raccordement des 300 dollars, un autre des 500 dollars, pourquoi cette différence?
Alors là, il s'agit de puissance installée dans le compteur, en fait. Et donc, le pack qui est à 300 dollars, en fait, est un pack de raccordement de base, avec des puissances qui sont limitées dans le compteur à 0,8 kVA. Nous le faisons évidemment pour pouvoir aider les revenus modestes à pouvoir se raccorder, mais la société bien évidemment ne gagne rien là-dessus.
Par rapport à ce raccordement, c'est de 300 $, paye les frais de maintenance suivi compteur 4 $ le mois, sur les 500 $, 12 $ le mois, voilà 8 $. Parce que la population, on parle des 12, voilà, vous parlez des 8 $. À quoi servent ces frais?
Alors, ces frais servent à plusieurs choses. Donc, en fait, c'est tout d'abord une assurance qui assure le client que sa connexion sera toujours effective. C'est-à-dire, s'il y a un problème sur le compteur, s'il y a un problème sur l'interface, un problème de connexion avec les câbles, disons n'importe quel problème qui pourrait survenir entre le compteur et le tableau de la maison, nous prenons en charge toutes ces réparations, qu'elles adviennent pour quelque raison que ce soit. Nous allons prendre en charge les réparations et faire en sorte que le client soit toujours connecté. Donc c'est une assurance. Deuxièmement, ça nous permet de venir prendre les index chez les clients. Une fois par mois, nous devons aller chez les clients, prendre les index, vérifier les puissances et tout ça, ça nous permet de tout simplement bien calibrer le réseau. Dernière raison, ça nous permet aussi de faire des contrôles anti-fraude pour éviter qu'il y ait des problèmes justement de tension sur les lignes parce qu'évidemment, nous savons quelle puissance est installée sur quel câble et le fait qu'il y ait des fraudeurs va justement perturber le réseau parce que nous n'avons pas prévu cette puissance installée sur ces câbles. Donc toutes ces raisons font que évidemment ça génère des dépenses sur la société et nous devons bien évidemment recouvrir ces charges par les frais de maintenance et suivi compteur.
Si un abonné se déplace sans qu'est-ce au courant soit consommé dans la maison, il part un mois, deux mois, cinq mois, est-ce qu'il va toujours payer ses frais de maintenance suivi compteur?
Alors effectivement, et c'est pour ça qu'aussi on dit à nos clients que ça soit pour les frais de maintenance et suivi compteur ou bien pour le paiement de la dette, parce que nous permettons aux clients de payer leur raccordement sur 12 mois. En fait, on leur recommande de venir faire une recharge même de 1 $ par mois pour pouvoir évidemment payer ses frais. Parce que le problème est que si le client part pendant 5 mois, il aura par exemple 5 mensualités de remboursement de dette à payer et aussi 5 fois les frais de maintenance et suivi compteur. Donc ce sont des frais qui peuvent se cumuler.
Population, parce que la société devrait aussi peut-être s'occuper de l'éclairage public.
Ça s'appelle d'ailleurs éclairage public, ce qui veut dire que c'est un service public et en fait partout dans le monde ce service public est à la charge de la ville, c'est-à-dire à la charge de la mairie. Donc maintenant nous devons nous mettre ensemble avec les gens de la société civile ainsi que les autorités de la mairie pour qu'on puisse trouver un mécanisme permettant le financement de cet éclairage public.
Certains pensent que c'est encore temps de transporter le courant vers Béni vu que la ville de Boutembo n'est pas encore suffisamment couverte.
Alors évidemment il y a encore des choses à améliorer ici à Boutembo et à agrandir le réseau. Maintenant, il faut aussi penser aux gens de Béni. On ne peut pas les laisser dans le noir. Boutembo, ça fait déjà un an et demi qu'il y a le courant. À Béni, il n'y a rien. À Béni, la situation est très compliquée. Je suppose que vous le savez. Et nous, notre décision stratégique a été d'envoyer le courant sur Béni tout en faisant les extensions sur Boutembo parce que nous avons déjà ajouté 3 cabines au réseau qui étaient préexistants au lancement de la centrale. Nous en avons ajouté 4 à Béni, mais nous ne pouvons pas privilégier Boutembo à 100% et laisser Béni dans le noir, tout ça parce que les gens veulent que d'abord Boutembo soit éclairé. La société ENK a des concessions pour Boutembo et Béni et nous devons d'être impartial entre les deux villes.
Monsieur James Vanout, Radio Capu, vous remercie.
Merci à vous.
C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.